Je souhaite la bienvenue. On est vraiment en comité réduit ce soir. Mais contre Monsieur Macron et Madame Le Pen, je fais pas le poids. Hein, Alors, je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, de bénir cette soirée. Nous te remercions pour ta parole, pour cette lettre de Jacques qui nous interpelle sans ménagement. Nous te remercions aussi pour ta patience avec nous, parce que nous avons souvent du mal à mettre ces choses en œuvre dans nos vies. Et nous te prions pour notre communauté, pour qu'elle soit au bénéfice de ta parole, de ton esprit qui en éclaire la lecture. Nous te louons, Seigneur, et nous nous confions en toi ce soir. Amen. Bien, alors vous avez pris, je pense, le thème. Installez-vous, allez-y, je commence tout juste, je vous laisse vous installer. La prière, ça marche. Voilà, c'est bien. Vous avez suivi. Alors, je vais vous d'abord lire le texte, qui n'est pas bien long, le texte de ce soir. Ah, non, j'attends. Le texte de ce soir n'est pas bien long, c'est seulement quelques versets qui m'ont donné du fil à retordre au niveau du sens du texte. Et ce n'est pas un texte qui, pour moi, a été facile. Et donc, j'espère vous livrer quelques éléments utiles pour sa compréhension. Je rappelle aux animateurs de groupe qui sont là ce soir que je vais utiliser les mêmes notes que celles qu'on a utilisées. Que celles que j'ai soumises aux animateurs et animatrices de groupe. Je ne sais pas s'il y a eu des compléments sur le Google Doc depuis que nous en avons discuté. Pas encore ? Pas encore, mince. Bon, j'en aurais bénéficié ce soir. Ceci dit, si vous en avez, alors il y a Adeline, il y a Dil, il y a Emmanuel. J'oublie Non, je crois que c'est les trois animateurs qui sont là. N'hésitez pas à du coup faire mémoire des conversations qu'on a eues, dont j'ai beaucoup profité et que j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à compléter les éléments j'essaierai d'apporter ce soir. Du coup, on va faire une étude biblique à 4 ce soir. Voilà, je compte sur vous. Allez, on va lire donc les versets, le chapitre 5 déjà, et les versets 13 à 18. Donc je vais tousser, je vais m'étrangler. Si vous me voyez tomber par terre, ne vous inquiétez pas, je me relèverai.
Quelle foi !
Voilà. Quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Élie était un être humain de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est quand même curieux que l'apôtre Jacques, ça je ne l'ai pas dit l'autre jour, prenne exemple sur un homme qui prie tous les 3 ans et demi. Il a prié et puis il a prié de nouveau 3 ans et demi après. Bon, j'espère qu'on ne va pas attendre 3 ans et demi après notre prière pour prier de nouveau. Voilà, alors un texte qui en apparence n'est pas très compliqué. Cependant, vous avez peut-être remarqué à la lecture des mots qui vous ont surpris. Et on va voir ça. Premièrement, versets 13 et 14, différentes circonstances. On est dans la souffrance, on est dans la joie, on est malade. Ensuite, la prière qui a d'heureux résultats. Les résultats, c'est la guérison ou le salut, et puis le pardon des péchés. Et puis ensuite, des leçons à tirer de ce qui vient de se passer, de ce qui vient d'être dit, l'idée de confesser les péchés les uns aux autres. Donc on sort du domaine de la prière là, hein ? Mais on va y revenir très vite. C'est une remarque au passage que Jacques fait. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres. Et puis enfin, un éloge de la prière qui a une grande force. Et à l'appui de cette affirmation, l'exemple d'Élie, du prophète Élie. Ça marche ? Alors, versets 13 et 14, revenons un petit peu dessus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Le verbe, le mot, qui, je ne sais pas si vous avez tous le mot souffrance dans vos traductions. C'est un verbe assez rare dans le Nouveau Testament qui exprime plus qu'une souffrance physique, qui exprime le fait d'être à bout. Par exemple, on pourrait dire quelqu'un est-il, on dirait aujourd'hui, en galère. Ça veut dire je suis en panne sur l'autoroute, j'ai plus de téléphone, il pleut à verse et quoi d'autre, je sais pas, il y a un troupeau de vaches qui me fonce dessus. Je suis en galère. C'est pas seulement je me suis cogné le petit orteil sur le pied du lit, où j'ai très mal au pied. C'est des souffrances beaucoup plus générales. Paul, par exemple, utilise ce verbe pour parler de sa situation de prisonnier à Timothée. Alors, ce n'est pas qu'il souffrait, encore que, mais c'était qu'il était prisonnier. Voilà une souffrance, une difficulté, une galère, on dirait aujourd'hui. Et là, c'est une situation qu'on rencontre tous, hein. Je pense. On a tous été en galère, peut-être pas en panne au bord de l'autoroute avec des vaches, etc. Mais on a tous connu des difficultés. Première situation. Deuxième situation, quelqu'un est-il dans la joie ? Ben là, c'est pareil, c'est aussi un terme rare, comme si Jacques cherchait à être original dans l'expression de sa pensée. Il décrit quelqu'un qui a la pêche, on dirait aujourd'hui. Qui est plein d'enthousiasme. Ce n'est pas le mot « joie » qui est utilisé, c'est le mot, on pourrait dire, qui a du courage, qui a envie de foncer, hein. Qui a envie de crier sa joie. Et c'est le mot « courage » que Paul... C'est ce mot-là que Paul utilise, par exemple, quand il est... vous savez, dans son dernier voyage, quand il va vers Rome, à un moment donné, il y a un naufrage sur le bateau. Enfin, le bateau est en naufrage, une tempête... Paul encourage, et c'est ce mot qui est utilisé, les passagers, il leur dit « Vous inquiétez pas, il n'y en a pas un seul qui va mourir. » Donc j'imagine le ouf qu'ils ont dû avoir en écoutant Paul, s'ils ont bien voulu le croire. Donc c'est des mots, finalement, qui sont assez généraux. Hein, on connaît tous ces deux genres de circonstances. Après, quelqu'un qui est malade, malheureusement, je pense qu'on connaît tous aussi ce genre de circonstances. Là, le mot, on peut le traduire par malade, mais on peut le traduire aussi par quelqu'un qui n'a plus de force, qui est vraiment à plat, complètement au bout du rouleau. Alors, qu'est-ce que Jacques conseille dans ces circonstances ? Alors, quand on est en galère, prenons cette première expression que je choisis de traduire comme ça. Jacques demande qu'on prie, propose de prier. Mais Jacques m'embête là, parce qu'il ne dit pas ce que doit contenir notre prière. Moi j'aimerais bien qu'il dise, alors Jacques, explique-toi et prie. Ça veut dire des tas de choses, prier. Faut-il faire part de nos besoins à Dieu, par exemple ? Paul aux Philippiens, hein, faites connaître vos besoins à Dieu. Faut-il dire à Dieu nos souffrances. Seigneur, j'ai peur d'être sur l'autoroute en panne, sans téléphone, avec des vaches. J'ai peur, je suis en colère parce que je dois être à 8h30 à mon travail et que là, je vais être en retard, je suis en colère. Est-ce qu'on doit dire tout ça ? Les psaumes en sont un bel exemple. Et même Jésus, d'ailleurs, quand il était à Gethsémané, il a dit, mais Seigneur, éloigne de moi cette souffrance qui s'approche. Donc, est-ce qu'on doit dire ça ? Prier. Faut-il exprimer notre confiance à Dieu ? C'est-à-dire, Seigneur, je suis au bord de l'autoroute, ok, j'ai plus de téléphone, il y a l'averse, mais allez, il y a quelque chose qui va se passer, je vais m'en sortir. Je te confie cette situation. Est-ce qu'on doit exprimer cette confiance à Dieu ? Est-ce qu'on doit exprimer notre sérénité face à l'avenir, même si aucune circonstance ne nous permet de... humainement, selon ce qu'on voit, d'être le moins du monde optimiste. Je pense que c'est tout ceci le fait de prier, je pense que c'est vraiment tout ça à la fois que Jacques propose. Il précise pas. Ça veut dire, mais exprime-toi devant Dieu, vas-y, dis ce que tu penses. Ne mets pas de filtre, dis ce que tu penses. Donc c'est la première chose, c'est prier quand ça va pas. On n'ose pas forcément le faire, parce qu'on a envie plutôt de s'en sortir tout seul. La tendance naturelle, elle est bien là, hein. On fait tout ce qu'on peut, et moi le premier. Et là, Jacques nous donne une autre idée. Prie. Parle à Dieu de ce qui t'arrive. Un peu comme si Dieu ne le voyait pas, un peu comme si Dieu ne comprenait pas. Explique-lui ce que tu ressens. Explique-lui ce que tu sens. Ensuite, le deuxième conseil que Jacques donne, quand tu as la... Alors, j'ai retenu l'expression. Quand tu as la pêche, quand ça, vraiment ça va bien, chante. Alors, chanter... vous aurez compris que c'est pas chanter le dernier tube à la mode. C'est le verbe utilisé. Certains traducteurs, je sais pas ce que vous avez dans vos bibles, mais certains traducteurs vont avoir chanté des louanges ou je sais pas des cantiques, voilà. Hein. C'est des chants chrétiens, religieux en tout cas. Alors, faut pas oublier que c'est un juif qui parle et que les juifs chantaient beaucoup. Hein, ils avaient toute une hymnologie très vaste, ils chantaient les psaumes, mais ils chantaient aussi toutes sortes de chants. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on repère un certain nombre de petits textes dont on se dit, ça devait être un chant que les premiers chrétiens chantaient. On en a certaines traces dans les épîtres de Paul, peut-être dans les actes des apôtres aussi. Voilà. Chante. Le verbe est assez rare, encore une fois. Paul l'utilise quand même un petit peu quand il parle de l'action de l'Esprit de Dieu en lui. C'est par l'Esprit qu'il chante. Donc là, on voit bien qu'il y a cette motivation, cette expression de notre foi. C'est par l'Esprit qu'il chante. Il demande aux Éphésiens... Alors là, je cite 1 Corinthiens 14. Et dans Éphésiens, donc une autre de ses lettres, au chapitre 5, il demande que l'on chante parce que le Saint-Esprit agit dans nos vies, chapitre 5. Donc c'est ce verbe qui est utilisé. Il cite aussi un psaume dans lequel on chante le nom de Dieu. Il s'agit d'une expression, que dois-je dire, joyeuse, musicale, artistique, de notre foi, de ce que nous vivons à l'intérieur, de le faire sortir de cette manière agréable, encourageante. Pour la maladie, troisième domaine, là, Jacques, pardon, va être un petit peu plus explicatif. Pour l'instant, pour quand on est en galère, il dit juste prie, juste un verbe, rare en plus. Dans la joie, chanter, un verbe, rare en plus. Mais là, quand tu es malade, c'est autre chose que Jacques propose. Alors, quand on est malade, pardon, oui, voilà. Appelez les responsables de l'Église. Je vous rappelle que le mot utilisé ici, vous avez, je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles, donc je suis au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle. Moi, j'ai les anciens de l'Église. Vous avez ça dans vos traductions. Alors, les anciens, faut pas. Pardon? Tu as les responsables. Voilà. Faut pas oublier que Jacques était très inscrit dans le contexte juif et que le mot ancien dans la bouche de Jacques veut bien dire comme les anciens d'Israël étaient les responsables du peuple. Les anciens de l'Église sont les responsables de l'Église. C'est pas. Je précise parce que aujourd'hui le mot ancien. Quand on l'utilise parfois un peu trop facilement, et en français d'aujourd'hui, ça veut dire complètement autre chose. Hein. Un ancien de l'Église, ça peut vouloir dire quelqu'un qui y était et qui n'y est plus. Hein. Comme on dit, je suis un ancien de chez Peugeot, ça veut dire j'y ai travaillé, maintenant je suis à la retraite. Alors, un ancien de l'Église, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire celui qui est responsable de l'Église. Et c'est vrai que le mot témoigne aussi d'une certaine ancienneté. Il est opposé, d'ailleurs, dans certains textes, à la jeunesse. Donc c'est un sens double que nous avons dans ce mot. Alors qu'il appelle les responsables, disons, de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Et nous avons là cette pratique de l'onction d'huile, que l'on trouve très rarement, et qui est décrite ici, en tout cas, et même conseillée ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, avant d'arriver à l'onction d'huile, quand on est malade, on peut appeler les responsables. Et même, il y a plusieurs choses qui étaient sorties, je me souviens des discussions avec les animateurs et animatrices. Ça veut dire que les responsables ne vont pas forcément deviner que tu es malade. Tu les appelles, tu leur demandes de venir. Ensuite, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va se passer forcément dans une réunion de l'Église. Mais ça peut se passer à la maison, dans un endroit plus restreint, à l'hôpital peut-être. Enfin, à l'hôpital, j'ai un petit peu anachronique par rapport au texte du Nouveau Testament, bien sûr, mais disons dans un lieu autre qu'un lieu d'église. Il faut noter que ce sont les malades qui sont les acteurs de cette action. Si tu es malade, appelle. Et ils n'attendent pas que les responsables viennent. Ça veut dire aussi qu'on a le droit de dire qu'on va pas bien. Ça veut dire aussi qu'on a le droit de dire « je suis malade, je ne vais pas bien, j'ai des problèmes ». Et que c'est pas mal, dans l'Église et ailleurs, de dire ça. Je pense que ça témoigne aussi de cette liberté qu'on peut et qu'on doit avoir de faire part de nos difficultés aux responsables de l'Église. Ils ne sont pas forcés. Parfois, on pourrait imaginer qu'ils s'en doutent, qu'ils le voient, qu'ils le discernent. Eh bien non, pas toujours, parce qu'ils ne sont pas si doués que ça. Et parfois, ils ont besoin d'être aidés dans leurs responsabilités. Il y a une expression qui est rigolote à traduire, si on la traduit littéralement. Alors, le malade appelle les responsables de l'Église, les responsables se retrouvent, ils sont là, tout ou partie, on ne sait pas, les responsables, c'est très vague. Et il prie littéralement sur lui. Alors pour ça, il vaut mieux pas le traduire littéralement. Parce que oui, ils vont l'achever, oui. Mais on comprend l'image. L'image, c'est que ils vont peut-être se mettre autour du malade, et puis peut-être poser une main sur l'épaule ou quelque chose comme ça. Et ils vont prier, bien sûr, on dira en français, pour lui. Alors on dit parfois que les traductions littérales de la Bible sont les meilleures, en l'occurrence pas du tout. Donc ça veut bien dire que l'objet de la prière des responsables va être le malade. On pense à rien d'autre. On prie pour lui, leur attention est sur lui. Et alors, il y a ce geste que Jacques propose, l'onction d'huile. C'est à partir de ce texte que nos amis catholiques vont parler de l'extrême onction, supposant par là que le malade, il en est vraiment à sa dernière extrémité. Je ne crois pas qu'il faille lire ce texte de cette manière. On peut lire, on peut être malade et avoir encore quelques belles années de vie devant soi, et quand même, à un moment donné, parce qu'on est épuisé, parce qu'on est à bout, on peut faire le choix d'appeler les responsables. Ceci dit, on s'est posé la question, je pense, au groupe des animateurs et animatrices, du seuil. C'est-à-dire, je vais reprendre mon petit doigt de pied, si je me suis cogné le petit orteil sur le pied du lit, est-ce que je vais appeler les responsables de l'Église pour qu'ils prient pour moi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce que si je suis vraiment malade, à quel moment je vais les appeler pour qu'ils prient pour moi. Je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question. C'est à chacun d'estimer le moment où il décidera de faire part au responsable de son désir qu'il prie pour lui ou pour elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, Pardon ?
C'est très clair.
C'est très clair. Merci Inès. Alors ensuite, le geste de l'onction d'huile. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce geste. On utilisait de l'huile à des fins médicales, on utilise toujours d'ailleurs de l'huile pour des massages, des huiles naturelles. Maintenant on appelle ça de l'essence, hein, on est passé de l'huile à l'essence. Mais oui, on utilise ces choses, ces produits naturels pour se soigner. Ok, est-ce que c'est ça que Jacques voulait dire ? à ce moment-là, pourquoi prier ? Il va être question de la prière de la foi, il va être question de sauver le malade par la prière. Alors pourquoi cette huile ? Si elle a des vertus médicales, est-ce qu'il faut prier ou donner des médicaments et puis prier ? C'est compliqué. À mon avis, ce n'est pas la fonction première dans ce texte-là de l'huile. L'huile servait dans l'Ancien Testament à des tas de choses. Pas seulement à soigner une plaie, elle servait aussi à donner, par exemple, à conférer une fonction. C'est-à-dire, l'huile était employée pour oindre un roi, oindre un prophète, un prêtre. Conférer, c'est ce genre de fonction. Elle était une huile signe de joie. Vous vous souvenez ce psaume ? Alors nous, ça nous fait drôle. Hein, voilà, je vois le geste. La bénédiction qui coule comme de l'huile sur la barbe d'Aaron. Je veux dire, allez, nous, on ne ferait pas ça aujourd'hui. Hein. Mais voilà, l'huile, c'est tout ça aussi. C'était une richesse, tout à fait. Je vais vous lire un extrait d'un commentaire, parce que ça non plus, ça ne me satisfait pas totalement. Pourquoi sur un malade, alors mettre une huile médicinale si on va de toute manière prier pour la guérison, ça fait double emploi en quelque sorte. Pourquoi mettre sur un malade de l'huile de joie, comme le coup de la barbe d'Aaron, hein, ou un prophète ou une onction pour une fonction particulière, ça n'a rien à voir avec la situation du malade. Alors bon sang, à quoi sert cette huile ? Il est difficile, je cite, Vouga, il s'appelle. Il est difficile de déterminer la portée exacte de ce geste, d'autant plus que Jacques en parle comme de quelque chose de connu. Et c'est vrai, on n'a aucune explication. Apparemment, c'était une pratique qui se faisait, puis Jacques il dit, faites-le, mettez de l'huile. Mais si c'était totalement inconnu, il expliquerait plus, et du coup, on serait bien contents, nous, d'avoir ces explications. Mais on ne les a pas. C'est le cas dans beaucoup de textes, hein, comme ça, de la Bible, et la seule conclusion certaine qu'on puisse tirer, c'est que nous, on ne sait pas, mais les lecteurs de Jacques, eux, devaient savoir. Une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Dans la Bible, je continue ma citation, l'huile est employée médicalement, c'est résumé, médicalement, et l'onction est liée à la guérison ou à la purification des malades, quand même. Elle peut aussi être le signe d'honneur et de joie, ou aussi d'élection et de consécration. Ce qui découle naturellement de notre texte est que l'huile est une prière par le geste. Prière par le geste, associée de prière par la parole. Il ne faut peut-être pas s'aventurer à en dire plus. D'ailleurs, la phrase suivante appuie non sur l'huile, mais sur la prière. Autrement dit, l'huile, d'après, et il me semble que c'était quelque chose d'assez consensuel chez les animateurs et animatrices de groupes de maison, l'huile, c'est un symbole de la prière que nous appliquons aux malades et que c'est un symbole de cette prière qu'il reçoit pour sa guérison ou son salut. Ce n'est qu'un symbole. Ce n'est pas une huile magique qui comporterait en elle-même une puissance quelconque, mais c'est une simple prière par le geste. Et si on fait cette prière par le geste, on pourrait même imaginer qu'on se passerait de parole. C'est une prière faite par un geste, faite par un peu d'huile versée sur une personne, sur son front, sur son épaule, que sais-je. Nous sommes loin, avec cette pratique-là, de ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Ici, l'apôtre Jacques dit, si tu es malade, t'appelles les responsables, ils vont prier pour toi, ils vont te mettre, ils vont te faire l'onction d'huile, et voilà. Après, tu vas, là on va en profiter pour parler des péchés, s'il y a des choses à mettre en règle, et puis la prière de la foi sauvera le malade. Bon. Mais Paul aux Corinthiens, il va indiquer tout autre chose. Il va parler du fait que certains dans l'Église, et pas forcément les responsables, ont un don un charisme, c'est-à-dire un effet de la grâce de Dieu, un effet de l'action de Dieu, qui les rend capables de guérir des personnes. Ils ont le don de guérison. C'est tout autre chose. Et ça nous montre déjà que Dieu fait comme il veut, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et peut-être nous oublions une troisième ou une quatrième manière que Dieu utiliserait pour guérir. Bah, tenez, Jésus, il y a des fois, il dit un petit mot, il n'est même pas à côté du malade, et le malade guérit. Et puis Pierre, tenez, qui laisse traîner un mouchoir ou un bout de tissu, et il y avait une puissance de guérison là-dedans. Donc, on voit bien que Dieu, peu importe le moyen, peu importe la circonstance, si Dieu guérit, Dieu guérit. Tout simplement. Et si Dieu veut faire d'une manière, il fait d'une manière. S'il veut faire d'une autre manière, il fait d'une autre manière. Ici, ce que Jacques demande, c'est que ce soit les responsables de l'Église qui viennent prier. C'est, semble-t-il, d'après Jacques, une de leurs fonctions. Ce qui est assez unique dans le Nouveau Testament, dans les différents styles d'Église qu'on voit dans le Nouveau Testament, parce que par un modèle unique, c'est que là qu'on voit cette fonction des responsables d'Église, sauf erreur. Mais il me semble. Ça va ? Question, remarque ? Sauf erreur, parce que je laisse toujours la porte ouverte à un oubli éventuel que j'aurais fait. Tout va bien ? Alors on continue. Cette prière a d'heureux résultats. Verset 15. Et là, je vous rappelle que nous venons de faire l'onction d'huile et que Jacques oublie l'huile, n'en parle plus, et il dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Alors, dans ma traduction, j'ai autre chose. J'ai pas, tout à l'heure, ça ne vous a pas échappé, perspicace que vous êtes, et j'ai le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Le souhait, ça fait bizarre, hein, on n'a pas l'habitude. Alors pourquoi il y a le souhait ? Parce que en grec, ce n'est pas le mot prière qui est utilisé ici. Effectivement, c'est un mot qu'on va pouvoir traduire par vœu dans certains autres cas. Peut-être vous avez ça, je ne sais pas. Dans le livre des Actes, par exemple, quand des gens ont fait un vœu contre Paul pour le tuer, bah c'est ce mot-là qui est utilisé. Non, je ne sais plus le mot en grec, désolé. Ah oui, c'est vrai que madame fait du grec maintenant. Ah oui. Eh ben non, celui-là, je ne m'en souviens plus par cœur. Parce que justement, il est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament, ou 4 maximum. Donc j'avoue, là, je n'ai pas retenu. Et ça veut dire que les responsables de l'Église ont présenté un vœu devant le Seigneur. Pour moi, c'est une manière de comprendre la prière aussi que les responsables d'Église ont faite à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, nous te prions pour notre sœur. Allez, je vais prendre Jacqueline. Nous te prions pour notre sœur Jacqueline. On met de l'huile sur Jacqueline. Et on dit, ben voilà, nous ce qu'on veut, c'est qu'elle guérisse. Nous ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui serait vraiment, mais super, on te présente ça comme notre demande, Seigneur, guéris-la. C'est l'expression, c'est un cri du cœur, un vœu. Mais un vœu plein de foi, c'est-à-dire, c'est pas... Bon, on sait très bien que tu ne pourras pas le faire, hein, mais on te le demande histoire de te l'avoir demandé et d'être tranquille. Non, ce n'est pas ça, c'est on sait que tu peux le faire et on te le demande. Oui ? La question c'est, est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle avec la prière fervente du juste ? Mais c'est écrit juste après, c'est la fin du verset 16. Alors, bien sûr qu'on peut le mettre en parallèle. Bien sûr, on peut même dire le vœu confiant, plein de fois, hein, confiant, c'est très proche de la prière fervente. Alors, le mot fervente, c'est pareil, compliqué à traduire, on va y revenir tout à l'heure. Mais le parallèle mérite d'être fait, et une expression explique l'autre, hein, puisqu'elles sont dans le même texte. Alors, on continue. Sauvera le malade. Le vœu, ou le souhait, j'ai dans ma traduction. Alors oui, au fait, pourquoi j'ai souhait dans ma traduction ? Parce que En fait, c'est quatre fois qu'il a utilisé ce mot. Parce que, un peu plus loin dans le texte, où est-ce que c'est ? Ah bah oui, verset 16. « Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres. » Et, j'ai dans ma traduction, hein, « Souhaitez-vous du bien les uns aux autres. » Eh bien, c'est la même racine. Le vœu de la foi ou le souhait de la foi est « souhaitez-vous ». Dans certaines traductions, il est écrit « priez les uns pour les autres ». C'est ça ? Le verset 16. Hein. Traduction difficile, encore une fois. C'est pour ça que je vous dis ce texte en apparence. Il est tout simple. Quand vous commencez à apprendre le grec, vous souffrez. Vous souffrez. Et voilà. Mais on souffre. Ben, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Voilà, qu'on prie devant ce texte. Souhaitez-vous du bien les uns aux autres, ça veut dire, on peut considérer que ce n'est pas la prière dont il est question, mais c'est je veux ton bien. Et si je veux ton bien, je m'y engage. Je fais tout pour que tu sois bien, tu reçoives du bien. Donc c'est une traduction qui est beaucoup plus, je vais être provocateur, peut-être mobilisatrice, que de simplement, bon Seigneur, je te prie de bénir Jacqueline, amen. Vous voyez, et après je suis tranquille. J'ai prié pour Jacqueline, c'est bon. Dieu fera le reste. Mais là, c'est je veux le bien de Jacqueline et donc ça m'engage. Vous voyez, parfois la traduction est pas simple parce que c'est des mots utilisés assez peu. Hein, deux fois ici dans le même texte, deux fois dans le livre des Actes et c'est tout. Après, on va voir dans la littérature grecque du 1er siècle, voir comment il est utilisé, etc. Et c'est toute une étude qui parfois nous laisse sur notre faim parce qu'on ne sait pas vraiment ce que Jacques voulait dire à cet endroit-là. Parce qu'un mot est quand même aussi défini par l'usage qui en est fait dans tel ou tel texte. Alors, je continue. La prière ou le souhait de la foi sauvera le malade. Et là, de nouveau, on a des problèmes. Vous allez dire, je coupe les cheveux en quatre. Mais le verbe sauver, ce n'est pas le verbe guérir ici. Et du coup, on s'interroge, on se dit, mais attends. Est-ce que ça veut dire sauvera le malade? C'est-à-dire, bon, il va peut-être rester malade, peut-être même il va mourir, mais Dieu le sauvera. Le salut. Parce que chaque fois que Jacques utilise ce mot « sauver », c'est dans l'idée du salut en Jésus-Christ, quoi. D'être sauvé des péchés, de la condamnation, de la perdition, etc. Là, la prière ou le souhait de la foi sauvera le malade. Bon, mais après, c'est écrit « vous soyez guéris » à la fin du verset. Alors, on se dit, bon, sauver, guérir, c'est peut-être quand même très parallèle. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que quand on va prier pour les anciens, on fait confiance à Dieu, on lui a confié cette guérison, puisqu'on peut quand même parler de guérison, et que ce soit d'une manière ou d'une autre, Dieu va répondre. Le Seigneur le relèvera. Vous allez le trouver casse-pied, mais là encore, on a un problème. Le verbe relever en grec, c'est pour ça que je vous dis ce texte est exigeant. Le verbe se relever, ça peut être traduit. Par exemple, Jésus s'est relevé de la mort. Ça veut dire, en français, on va traduire ressuscité. Mais ça veut dire aussi, j'étais au lit comme ça, hein, et puis, je vais mieux, je me relève. Je me mets assis, je me mets debout, je vais me brosser les dents, je vais manger une pomme, etc. Donc vous voyez, c'est les deux sens différents. Du verbe, et on se demande lequel utiliser ici. Moi, je pense qu'il faut rester très simple, c'est-à-dire le verbe se relever, le Seigneur le relèvera, le Seigneur le guérira. C'est assez parallèle. Le Seigneur le relèvera, même si sauver, ressusciter, ça peut avoir un sens, allez, une résonance quelque part qui va quand même plus loin. Même si on parle d'une guérison, même si on parle de se lever de son lit, hein. On a tous connu ça, hein, sans blague. Vous étiez malade comme un chien, vous passez une bonne nuit, et le lendemain, on se lève et la vie a repris. C'est génial, hein, ça vous n'avez jamais arrivé ça? Si, quand même. Je vous le souhaite. Pas la nuit d'avant, mais le matin. Voilà. Mais, alors Jacques évoque ça, à mon avis, mais il y a cette percée, cette perspective du salut, de la résurrection, qu'on a du mal à exclure totalement. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus abuser. Jacques parle de la guérison d'un malade. Hein. Mais quelque part, un malade, c'est quelqu'un, même s'il est guéri, admettons, mais il va mourir quand même. Après, il va mourir en bonne santé peut-être, mais il va mourir.
à la fin de sa vie, mourra, quoi. Donc, il ne s'agit pas forcément de dire c'est quelque chose... voilà, la résurrection, ça va être... C'est comme s'il n'allait plus mourir et qu'il était déjà au ciel. On n'en est pas là. Donc, on est bien sûr des circonstances très terrestres, très simples, très quotidiennes. Mais là où on a un problème, c'est dans la suite. À chaque ligne, on a des problèmes dans ce texte, je vous dis. Et c'est, je ne critique pas. Je ne critique pas ce que Jacques a écrit. Je nous critique, nous. Parce qu'on a du mal à comprendre. En tout cas, moi. Vous, je ne me permettrai pas. Mais moi, oui. Je me critique. J'ai du mal à comprendre. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, Jésus a enseigné... vous savez, pour l'aveugle né dans l'évangile de Jean, hein, il a dit... les Juifs viennent voir Jésus, il y a un aveugle qui est né aveugle. Alors, c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Demande à Jésus. Jésus dit, vous n'avez rien compris. Et là, je vois un malade et ah ben, il est question de péché. Ça veut dire que s'il est malade, c'est parce qu'il a péché. Hein? C'est un peu ce qu'on pourrait déduire du texte si on lit un peu vite. C'est quand même, on met l'un à côté de l'autre, le péché et la maladie. Première des choses, la maladie est une cause du péché. Mais de manière générale, dans la théologie du Nouveau Testament, nous savons que la souffrance, la mort sont entrées dans le monde à cause du péché. Adam et Ève, avant la chute, ils n'avaient pas mal aux dents, hein. Ils avaient pas mal aux pieds, ils se cognaient pas le petit doigt de pied dans le... Enfin, il n'y a pas de lit non plus. Vous voyez, c'est... ils ne souffraient pas. Et puis, la chute a amené la mort et la maladie. Alors, on peut dire, oui, la maladie cause... le péché cause la maladie. Mais si je fais tel péché, je ne vais pas avoir telle maladie. On peut trouver des exceptions du style, si je fais un péché de... gloutonnerie, je vais avoir une crise de foie, ou un mal au ventre, ou je sais pas. Oui, d'accord, l'alcoolisme aussi, voilà. Il y a des péchés, mais c'est surtout des péchés, c'est-à-dire des péchés contre le corps. Mais si, par exemple, j'ai été orgueilleux contre mon voisin, je vais pas avoir mal au genou. Ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il faut retenir. Et alors, c'est pas ce que Jacques est en train de dire, précisément. Ne tombons pas dans ce piège. C'est pas nécessairement parce que le malade est malade qu'il a péché. Les psaumes nous le disent. Hein. Comment ça se fait que les méchants, ils se portent bien, ils sont grassouillés à souhait, ils sont heureux, et puis moi qui essaie de le plaire, Seigneur, je suis malheureux comme les pierres. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de loi, finalement, entre le péché et la maladie. Ceci dit, quand on est malade, est-ce que ce n'est pas le moment de faire une introspection, de se dire où j'en suis dans ma vie, d'avoir un temps où on est mis à nu, et si les anciens viennent, est-ce que ce n'est pas le moment où j'ai peut-être l'occasion de parler d'autre chose que mon mal de genou, mais de ce que j'ai dans le cœur, de la maladie, mais pas de celle de mon genou ou de mon pied, mais de celle de ma foi? Parce que c'est le même registre, quand même, puisque la maladie est venue dans le monde par le péché. Donc on profite de l'occasion, sans chercher quelle maladie a causé, quel péché a causé telle maladie, mais en cherchant à utiliser l'occasion que nous avons pour être clair devant le Seigneur. Seigneur, je te demande de me guérir. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma vie. Ah, mais au fait, Seigneur, je voulais te dire ça aussi. J'ai telle et telle difficulté à me conformer à ta volonté. Là, je n'ai pas été bon. Là, je t'ai offensé. Je n'ai pas eu une bonne attitude. Vous voyez, ça, finalement, dans notre relation avec Dieu, ça forme un tout. Et du coup, Jacques fait un pas de plus. Au verset 16, il va dire « Et même, reconnaissez les péchés les uns devant les autres. » Donc là, il sort du domaine de la prière et il reste dans le domaine du péché, du fait qu'il faut savoir se remettre en question. Hein. Et donc, on a ce conseil tout à fait surprenant du verset 16.
Alors, avant ça, je voudrais quand même dire une chose. C'est, est-ce que le malade a prié, là, dans ce texte? C'est les autres qui ont prié pour lui. Le malade, là, on ne voit pas qu'il prie. Bon, en même temps, il n'est pas en train de jouer au Scrabble, hein, pendant que les anciens prient pour lui, je pense. Mais c'est intéressant de voir que la seule chose que le malade a faite, que décrit Jacques, c'est d'appeler les responsables. Après, les autres, les responsables, ils font tout. Ils mettent l'huile, ils prient, ils mettent les mains et tout ça. Et même, ils vont jusqu'à demander pardon pour lui. Donc, c'est très fort comme situation. On peut imaginer, là, et peut-être c'est là l'approche catholique, que le malade n'est plus capable de parler. Et que, ben, Seigneur, on te prie pour notre sœur Jacqueline, je te reprends comme exemple, ma pauvre, tu auras gagné ta soirée. Et puis, alors, il ne s'agit pas d'accuser Jacqueline d'avoir... Ah oui, Seigneur, elle a fait... Alors là, dis donc, elle a chargé la barque, hein. Oh là là. Et là, on y va. Non, ce n'est pas l'idée, mais Seigneur, aie pitié d'elle. Pardonne-la. Accueille-la dans ta grâce. Et c'est cette idée de demander le pardon pour cette sœur pour laquelle, ou ce frère pour laquelle on, ou lequel on prie. Et tout devient très logique finalement quand on s'imprègne de cette circonstance que Jacques évoque. Ensuite, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Ça, c'est une phrase qui sent le soufre un petit peu. Tout de suite, on voit les confessions obligatoires des grandes époques du communisme chinois, ou je pense la Corée du Nord, malheureusement. Je pense qu'on n'en est pas là, et je pense que Jacques ne va pas demander qu'on fasse des confessions publiques de nos péchés, etc. C'est extrêmement malsain. Et c'est de l'ordre de la manipulation et de l'oppression plus qu'autre chose. En revanche, s'il s'agit d'une salutaire honnêteté qu'il faut avoir plus souvent qu'à son tour, régulièrement dans nos relations, c'est très pertinent. Au lieu de toujours se poser en victime, en disant « ouais, je suis malade, vraiment, priez pour moi les copains », voilà. On se dit aussi « attends, est-ce que moi, à un moment donné, j'ai pas aussi blessé les autres. Il lui sera pardonné s'il a commis des péchés. Et donc, embrayez là-dessus. Soyez honnêtes les uns envers les autres. Sachez reconnaître les torts que vous avez les uns envers les autres. Au lieu de toujours accuser les autres, au lieu d'accuser les autres, mettez un peu la lumière sur vous. Donc, il s'agit d'honnêteté et pas de confession obligatoire, etc. Alors, ensuite, souhaitez-vous du bien les uns aux autres. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, souhaitez-vous du bien. On est devant un choix de traduction. Alors, je vais faire une petite enquête. Dans vos Bibles, je vois que vous êtes beaucoup avec des Bibles sur les genoux. Qui est-ce qui a prié les uns pour les autres? Levez la main. Pardon?
Afin d'être guéri.
Afin d'être guéri. Oui, oui, oui. Le « afin d'être guéri », on est tous d'accord. C'est le « prier les uns pour les autres ». Ouais. Et qui est-ce qui a souhaitez-vous du bien les uns aux autres? Bon, il n'y a que ceux qui ont NBS, je pense. Et c'est toujours afin d'être guéri. Et là, on a le verbe guéri. Donc, on est de nous, revient au sujet dont il est finalement jamais sorti, c'est-à-dire la guérison, la maladie. À la guérison de la maladie. Alors, priez les uns pour les autres, souhaitez-vous du bien les uns pour les autres. Si on fait le parallèle avec ce souhait de la foi du début du verset 15, on va être dans un souhait pour les autres. C'est ce que j'ai dit pour la prière des anciens, le souhait de la foi va être valable cette fois-ci de manière plus horizontale, c'est-à-dire les uns pour les autres. Et là, c'est plus seulement les responsables qui ont ce souhait à avoir. C'est le même mot qui est utilisé pour ce que font les responsables pour le malade, et ce que nous faisons tous les uns pour les autres. Et le but est le même, guérison. Donc c'est comme s'il y avait un genre de dilution de la responsabilité qui nous apparaissait au début comme réservée aux anciens. Et là maintenant, c'est tout le monde, les uns pour les autres. C'est pas mal comme idée, ça me plaît bien, parce que, encore une fois, de toute manière, c'est pas les responsables qui guérissent. C'est Dieu. Que l'on émette ce souhait qu'un responsable prie pour un malade, qu'un malade prie pour un autre malade, qu'un bien portant prie pour un malade, qu'importe, de toute manière, c'est Dieu qui fera la guérison, s'il le souhaite. Ok, ça va ? Des remarques, des interventions, des protestations, des abstentions. Ah oui, c'est... Non, pas d'abstention. Pas d'abstention. Alors ensuite, on... Oui, pardon.
J'ai dans ma Bible, confessez donc vos péchés. Donc,
oui. Ça... Et il me fait remarquer au verset 16 qu'il y a le petit mot donc. Et effectivement, le mot donc se trouve dans le texte. On est bien d'accord, je ne l'ai pas souligné. Merci de le faire. C'est donc que le malade peut avoir quand même des péchés lui-même qu'il veut dire, oui. S'il est capable de parler.
C'est pas exclu. Quoi.
C'est pas exclu, je te remercie, tout à fait. Et c'est même pris en exemple, du coup, puisque c'est pas toi malade, confesse tes péchés aux anciens, c'est, bah du coup, comme le malade il a fait avec les anciens, allez, si vous avez des choses à vous dire, c'est le moment. C'est bien comme idée. Après, on ne sait pas les circonstances. On ne sait pas est-ce qu'il faut de l'huile à chaque fois pour qu'on fait. Non, on ne sait pas. C'est le principe. Et je parle d'honnêteté salutaire parce qu'il y a tellement une belle délivrance à dire quand on a des problèmes entre nous, de percer l'abcès, comme on dit, si on peut, si on a cette liberté. Et on l'a vécu, un certain nombre d'entre vous l'ont vécu x, y fois. Ces mises au point, ces déblocages, ces dénouements, ces ouvertures, c'est bienfaisant. Quand on sait reconnaître les torts qu'on a eus, quand on écoute que l'autre dit « bah oui, moi aussi, en fait, je t'avoue, je reconnais que j'étais pas bon », eh ben ça fait du bien, ça apaise, ça construit. Et on a besoin de ça. Pour une guérison physique, là, j'ai envie de dire guérison relationnelle aussi. Je ne sais pas si on a le droit de restreindre, là, pour le coup, à une seule guérison physique. Et on arrive, toujours dans le verset 7. Thomas parlait dimanche, si vous l'avez écouté, ce que je vous souhaite d'avoir fait, de la division en versets. Mais là, on est dans un cas un peu particulier, où le verset 16, il y a dû avoir... je crois qu'il parlait de la mule de l'évêque, là, qui... Eh bien là, elle a dû se prendre une pierre, parce que... La prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Il se trouve à la fin du verset 17, on l'aurait volontiers mis au début du verset 17, à la fin du verset 16, on l'aurait volontiers mis au début du verset 17, j'y arriverai. Alors, on va reprendre ce texte, l'important c'est surtout le texte lui-même. Difficile à traduire. De nouveau, c'est pas du snobisme, je vous assure que c'est des mots qui sont pas habituels que Jacques utilise, et celui-ci, la prière du juste, alors... Vous avez dans vos traductions la prière efficace du juste ?
Agissante.
Comment vous dites ?
Agissante.
Et
très puissante.
Et très puissante.
Fervente.
Efficace.
Fervente.
Bon, alors vous voyez la difficulté qu'on a ? Quand on a des traductions différentes, ça veut dire que c'est difficile à traduire et que chaque traducteur a essayé de suivre une certaine logique de vocabulaire pour rendre le mot grec. Enfin, grec en l'occurrence. Après avoir tourné, retourné, lu et relu, je vous propose une traduction. La requête du juste, elle est, on pourrait dire, active, quand il est traduit par fervente. Hein, active, c'est-à-dire, on voit le monsieur ou la dame à genoux en train d'implorer le Seigneur, là, c'est fervente. C'est cette action-là qui est... C'est cette ferveur-là qui est exprimée. Mais d'autres textes choisissent une autre idée, la prière mise en œuvre. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, en fait. Qu'est-ce que c'est que la prière mise en œuvre ? La prière agissante. Qu'est-ce que ça veut dire, la prière agissante ?
Énergique.
Énergique. Alors, c'est comme fervente, énergique.
Active.
Ah, active, on comprend peut-être un peu. Ça veut dire que la personne va accompagner sa prière d'action, peut-être. Difficile, pardon.
C'est d'un homme juste, mais si on, à partir du moment compris, on est justifié par la foi, donc
Alors, là, on en vient. Alors, laissons de côté le fervente, agissante, etc. Laissons-le de côté pour l'instant et venons-en au sujet, à la personne qui prie. C'est injuste. Tu nous fais remarquer que c'est la prière, ceci, cela, du juste. Qui écrit le juste ? C'est Jacques. À quelle piété Jacques appartenait-il quand il a écrit cela ? La piété juive. C'était un chrétien, certes, mais un juif. Pétri judaïsme, Jacques. Yaakov. Hein ? Qu'est-ce qu'un juste dans l'Ancien Testament ? C'est quelqu'un qui agit selon la justice. Ce matin, j'ai aucun mérite. Yasmina pourra sourire de moi. Elle le fait d'ailleurs à de multiples occasions. c'est Ézéchiel 18 qui nous a été lu ce matin. C'était l'engagement pour la justice dans le monde. Et il y avait la description du juste. Et le juste, alors je ne vais pas vous infliger quelques recherches inutiles. Je l'ai là. L'homme qui est juste, qui agit selon l'équité et la justice. Je passe un certain nombre de choses. Il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il n'exploite personne. Il donne son pain à celui qui a faim. Il ne prête pas intérêt. Donc voilà, ça c'est le juste. Et les justes dans les psaumes, c'est qui ? Ce sont ceux qui sont fidèles à Dieu, tout simplement. Donc quand Jacques écrit la prière du juste, moi je crois que c'est avant tout ça qu'il veut dire. C'est-à-dire celui ou celle, hein, bien sûr, qui est fidèle à Dieu. Autrement dit, pour avoir des prières qui ont de force, beaucoup de force, la première des conditions, c'est pas de prier dans telle ou telle langue, c'est pas d'élever la voix, comme j'entends quelqu'un chuchoter, et c'est pas de se mettre au bon endroit, à l'église ou sur telle ou telle chaise qui a été occupée par un tel, je ne sais pas. C'est d'avoir une vie juste, d'être fidèle à Dieu. Et là, en effet, en creux, il y a le texte d'Ésaïe qui me revient, qui nous est revenu. Au début du livre d'Ésaïe, il y a un texte qui dit, c'est Dieu qui parle, « Je détourne de vous mes regards, je n'écoute pas vos prières parce que vos mains sont pleines de sang. » Et Dieu détourne ses oreilles avec dégoût parce que ceux qui le prient ont des mains pleines de sang. Et bien ici, on a l'inverse. Les mains ne sont pas pleines de sang, elles sont pures. C'est des mains d'un juste. Et là, Dieu écoute. Voyez, c'est, je pense, la meilleure définition qu'on puisse avoir de la prière du juste, c'est celle en creux que nous avons au début du livre d'Ésaïe. Premier chapitre, sauf erreur. Ça marche ? Oui ?
Inès a simplement du semeur.
Oui.
Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.
Alors, traduction du semeur, merci. Quand un juste prie,
prière a une grande efficacité.
Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.
Aujourd'hui, je dirais que le juste, c'est aussi celui qui dénonce l'injustice.
Alors, oui, on peut dire que... Mais alors, le fait de dénoncer l'injustice, bon, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est juste soi-même. Mais vous avez raison, ça fait partie de la justice de dénoncer l'injustice. Et il y a bien des endroits où il est reproché par les prophètes de ne pas dénoncer l'injustice au peuple, où les prophètes reprochent à certains responsables de ne pas dénoncer la justice. Nous sommes d'accord. Alors, une autre traduction que je vous propose, parce que c'est un... Chaque traducteur y va de son essai. Hein. On est devant une traduction difficile, une expression difficile en grec. Les expressions les plus courtes sont en général les plus difficiles. La prière du juste, emplie d'énergie, a de la puissance. Et là, on en revient à un essai de traduction de fervente ou agissante. Ça veut dire, ce que Jacques pourrait dire, c'est que quand un juste prie, sa prière, c'est du lourd. Sa prière, elle a de la force. Elle est... Qu'est-ce que je dois dire ? Elle est emplie d'énergie. Et donc, en fait, une fois que Jacques a dit, quand le prière du juste, dont il dit en passant qu'elle est emplie d'énergie, elle a une grande puissance. Et si j'en crois cette traduction, finalement la condition première et même la seule condition de cette phrase, c'est que pour avoir une prière puissante, il faut avoir une vie fidèle à Dieu, une vie juste. Moi, quand j'ai compris ce texte, ça m'a fait drôle, ça m'a mis au défi. Je me dis, mais quand tu pries, qu'est-ce que Dieu entend? Ou plutôt, qui voit-il prier? C'est pas simple, parce que si on a Ésaïe en arrière-plan, on se dit, qu'est-ce que Dieu voit quand tu pries? Ça veut presque dire que Dieu regarde ta vie avant d'écouter ta prière. Et ça veut dire aussi que ta prière, elle peut être nulle. Tu peux faire des fautes de français, tu peux utiliser les mauvais mots, tu peux bafouiller comme c'est pas possible. Mais si ta vie est juste, ta prière est puissante. Ça change un peu la vision de la prière. On n'a plus besoin de faire de belles prières. Faisons-en quand même, les psaumes sont là pour nous dire qu'elles peuvent être courtes, longues, vibrantes, etc. Oui, oui, oui. Mais finalement, ou plutôt avant tout ça, ce qui compte, ça va être la vie que je mène. Je ne sais pas pourquoi Jacques dit ça à ce moment-là. Ou alors si on veut parler de sauver, de guérir, de choses que nous demandons à Dieu, avant tout, regardons nos vies. Regardons si nous sommes fidèles à Dieu. Si on peut être qualifié de juste. Au sens aussi où le juste, si j'en crois la lecture que j'ai faite du prophète Ézéchiel ou qu'on peut faire dans les psaumes aussi, c'est celui qui mène une vie, mais il ne faudra pas non plus qu'on imagine que si je ne pêche pas, je ne vole pas, je ne dis pas de gros mots, ça y est, Dieu va écouter mes prières. Le juste, vu par Jésus-Christ, c'est aussi celui, et quelqu'un l'a suggéré tout à l'heure, qui est justifié par le pardon de ses péchés et qui s'attache à vivre dans la liberté par rapport à ce péché dont il a été libéré. Oui.
Parce qu'on pense aussi à la parabole du pharisien et du publicain.
Oui.
Il y en a un qui s'imaginait être juste, mais l'attitude n'était pas...
Alors, il est fait allusion ici par Joël de l'histoire du pharisien, de la parabole, hein, ou de l'histoire, je ne sais pas ce que je dois dire, du pharisien et du publicain qui priaient au temple. L'un se prétendait juste et l'autre pas. L'un est sorti justifié et l'autre pas. Celui qui se prétendait juste n'avait de justice que celle qu'il prétendait avoir. Autrement dit, devant Dieu, ça ne pesait pas lourd. Celui qui reconnaissait son injustice a reçu par grâce la justice que Dieu lui a attribuée et est ressorti justifié du temple. Donc le juste, pour nous chrétiens, ce n'est pas celui qui paye ses impôts, etc. Payons-les quand même, hein. Surtout que c'est la période là. Mais c'est celui qui a été, comme le publicain, du fond du temple, justifié par le Seigneur lui-même. Bon, il faut que j'avance parce qu'il est 9h, le débat va commencer. L'exemple d'Élie. Pourquoi Jacques cite-t-il Élie? Déjà parce que c'est un personnage connu du temps de Jésus-Christ. Je vous rappelle que certains pensaient que Jésus était... Élie devait revenir, etc. C'était un grand prophète qui était connu au premier siècle. Donc il cite Élie. Mais qu'est-ce qu'il précise en citant Élie? Il ne dit pas « Élie, c'était un homme extraordinaire, c'était un granit du... formidable, c'est un surhomme de la foi. » Non, il dit, il était un être humain fait du même bois que nous. Autrement dit, ce qu'il a fait, tu peux le faire, mon ami. Il a prié, il n'a pas plu. Il a reprié, il a plu. Il y avait un contexte. Si on connaît, ça c'est ce qu'on avait échangé au niveau des animatrices et animateurs, il y avait une histoire autour d'Élie. Élie n'est pas arrivé, les mains dans les poches, devant un câble, il dit, écoute, je vais prier, il ne va plus pleuvoir. Non, il y avait toute une histoire dans laquelle Élie s'est inscrit. Pour en arriver à cette prière dont il est question ici. Élie n'a pas agi comme ça par provocation, c'était au service de Dieu qu'il était. Il ne faut pas l'oublier, non, parce que sinon on aurait l'impression que Jacques vante la vantardise d'Élie, l'orgueil d'un homme. Non, pas du tout. Élie était un être comme nous, mais ce qu'il a fait, c'était une simple prière. Et il met ça juste en... C'est la seule chose qu'il met en lumière dans toute l'histoire d'Élie. Eh bien oui, et c'est cette prière-là qui a fait qu'il n'a plus plu.
Voilà, bon, je pense que l'exemple d'Élie est parlant. Pas besoin de parler plus que ce qu'il dit déjà.
Et Jacques s'arrête là. Son développement sur la prière s'arrête là. Autrement dit, il s'arrête sur une énorme confiance en Dieu et sur cette phrase, la prière du juste, pleine d'énergie, a une grande force. Et gardons cette leçon, chers amis, pour notre vie de prière. La suite la semaine prochaine ou plus tard, dans les groupes de maison, où il y aura un certain nombre de questions pertinentes qui seront posées. Voilà, donc je ne conclue pas, puisque la conclusion sera faite dans les groupes. Et je remercie les animatrices et animateurs de groupes de maison qui ont largement enrichi les quelques lignes que je leur avais proposées et qui ne manqueront pas de le faire par écrit. Je compte sur vous pour enrichir le Google Doc. Il y avait des remarques encore ? Oui ? Alors, il vient d'être dit par Martin que si on s'arrête à ce passage, on pourrait penser qu'il suffit de prier et tout arrive comme on l'a dit. Ceci dit, il y a d'autres passages, dis-tu, qui ne disent pas tout à fait la même chose. J'en reviens au verset 15 et 16 pour répondre, où cette ambivalence de vocabulaire fait que nous avons une issue de toute manière positive. Ça veut dire que notre prière sera de toute manière exaucée. La question reste, comment et quand ? Peut-être c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Parce qu'effectivement, nous avons parfois des prières avec une vue bien précise de la guérison, de ce que doit faire Dieu, en oubliant peut-être que c'est Dieu qui est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu. Donc à la fois émettre un vœu confiant et à la fois... faire confiance dans la réalisation que Dieu en fera, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, dans longtemps. Voilà, c'est ça la question qu'il va falloir se poser.